Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, c'est notre dernier rendez-vous de la semaine. Ce soir, le jeu vidéo est-il le nouvel avatar du sport business ? On ne les attendait pas à pareille fête. Les coéquipiers de la team Supremacy n'ont fait qu'une bouchée de leurs adversaires, les membres de la pourtant très réputée équipe Millennium. Score final 3-1, sans doute la principale surprise de ce début de saison de la Call of Duty World League. Mais ainsi va le e-sport et sa glorieuse incertitude. Oui, car il s'agit bien de e-sport, façon la plus commune pour désigner les compétitions de jeux vidéo. Un secteur qui n'a rien de confidentiel, la pratique compétitive du jeu vidéo est un secteur qui n'en finit pas de grandir, 850 000 joueurs en France, un marché mondial de l'ordre de 600 millions de dollars. C'est ce que l'on apprend à la lecture du pré-rapport parlementaire remis fin mars à Axel Lemaire, la secrétaire d'État au numérique, par le député Rudy Sall et le sénateur Jérôme Durin. Leur constat est le suivant, la France est un pays qui peut compter sur la scène mondiale de l'e-sport, à condition de réguler ce secteur, de calquer son organisation sur celle du sport professionnel. Ce qui est loin d'être gagné, car les compétitions de jeux vidéo sont aujourd'hui assimilées à des loteries, les gains y sont de plus en plus importants, 1 million de dollars par exemple pour le vainqueur du championnat du monde du jeu League of Legends. Les organisateurs sont aussi les éditeurs, ils sont donc à la fois juges et parties, et les règles des compétitions évoluent donc en fonction d'intérêts commerciaux. Alors le jeu vidéo est-il le nouvel avatar du sport business ? C'est notre sujet du jour.
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
Voilà, j'ai honte de terminer ce lancement sur un son de Pac-Man, car je sais bien que Pac-Man, par exemple, n'entre pas dans la catégorie du sport business. J'espère que vous ne nous en voudrez pas. Torque, bonsoir.
Bonsoir à vous.
Votre vrai nom, c'est Jérémy Amzalag. Torque, c'est votre nom de joueur professionnel pour l'équipe Millennium, qui
exactement
est la plus ancienne structure d'e-sport en France. Votre jeu, enfin le jeu sur lequel vous jouez au sein de l'équipe Millennium, c'est Hearthstone, qui est un jeu de cartes, c'est ça ?
C'est ça, c'est un jeu de cartes en ligne.
Vous êtes par ailleurs streamer, c'est-à-dire que on vous regarde jouer aux jeux vidéo.
C'est ça, on retransmet en direct nos parties sur des web TV.
Et vous êtes par ailleurs commentateur de rencontres d'e-sport. Pour discuter avec vous, Juliette Rutowski, bonsoir.
Bonsoir à vous.
Votre nom de joueuse, puisque vous êtes également joueuse, c'est Malte. Joueuse et streameuse sur League of Legends, qui est un jeu de type arène. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs un jeu de type arène ?
C'est un match en fait en 5 contre 5 avec une sorte de vue en troisième personne. Donc on voit son personnage et son équipe et le but est de détruire la base adverse en coopération.
Et vous êtes membre de l'association Pink World qui œuvre à la promotion de la mixité dans le jeu vidéo, car il n'y a pas que des garçons qui jouent dans des compétitions de jeux vidéo. Troisième invité, Aloïs Kirchner, bonsoir.
Bonsoir.
Inspecteur des finances, vous avez été détaché de votre administration pour assister les deux parlementaires que je citais en introduction pour rédiger ce rapport e-sport, la pratique compétitive du jeu vidéo. Et puis quatrième invité, il est au téléphone, c'est Philippe Guigné, bonsoir.
Oui, bonjour.
Vous êtes le créateur d'un jeu de simulation de voile, Virtual Regatta. On peut donc refaire par exemple le Vendée Globe comme si on y était, sauf qu'on est devant son écran. Vous êtes par ailleurs membre du conseil d'administration du SNJV. Le SNJV, c'est le syndicat national du jeu vidéo. Alors je le disais en introduction, le e-sport, et si vous êtes d'accord, c'est le terme qu'on va conserver ce soir pour évoquer cette discipline. C'est un secteur qui est en plein boom. 4,5 millions de spectateurs en France, 850 000 joueurs, donc comme on peut le lire dans le rapport parlementaire auquel vous avez contribué, Aloïs Kirchner. Est-ce que ça veut dire que ce sont 850 000 joueurs qui gagnent de l'argent aujourd'hui en participant à des compétitions ?
Non, la grande majorité des joueurs ne gagnent pas d'argent. C'est d'abord une pratique amateur assez massive en France, puisque voilà, 850 000 joueurs, probablement entre 4 et 7 millions de Français qui regardent des compétitions de jeux vidéo de temps en temps ou régulièrement. Et des joueurs en France qui gagnent de l'argent significativement, il y en a tout au plus une centaine.
Alors on aura l'occasion d'aller sur cette question de l'argent. Est-ce que ce sont des rémunérations par contrat ? Est-ce que ce sont des gains en fonction des tournois ? Mais pour peut-être continuer à situer un petit peu la France en termes de performance et pas seulement de participants, est-ce que la France, Jérémy Amzalag, est un pays qui est plutôt dans le haut du panier en matière de compétition de jeux vidéo ?
Alors il y a énormément de joueurs, comme vous le disiez en France, comme le disait Monsieur Kirchner. Mais en termes de compétition de jeux vidéo, on est encore un petit peu derrière certains pays comme par exemple l'Asie, la Corée, la Chine, les États-Unis. Mais c'est en train de se développer. Il y a de plus en plus de grandes compétitions où les gens viennent d'ailleurs en très grand nombre pour jouer. Par exemple, on a la DreamHack ou la Gamers Assembly. Il y a plusieurs milliers de personnes qui se déplacent pour venir jouer et ils sont pas forcément professionnels.
Juliette Rutowski, comment est-ce que vous êtes arrivée dans le jeu vidéo et dans le jeu vidéo compétitif ?
Je suis joueuse depuis que je suis relativement jeune. Je suis presque la seule joueuse de ma famille, dirons-nous, alors que j'ai un petit frère et une grande sœur. Je joue depuis très longtemps et la compétition, ça vient naturellement. Quand je joue à un jeu, j'ai envie de figurer parmi les meilleurs, comme je pense c'est ce qui motive tous les joueurs en termes de compétitif. Et du coup, je me dirige beaucoup vers l'animation, vers le cast, comme on dit, donc le commentaire de partie, parce que je trouve ça très intéressant de partager cette passion avec des gens qui n'ont pas forcément le niveau des personnes qui sont en train de jouer. On caste par exemple l'équipe Millennium de mon collègue Torque, qui va être l'équipe de sa structure, on la casse régulièrement en tournoi. Et voilà, c'est quelque chose qui est tellement passionnant et prenant, c'est l'adrénaline des tournois, comme ça a pu l'être dans ma pratique sportive que j'ai eue quand j'étais plus jeune. C'est les mêmes sensations, mais avec un moteur et un média différent.
Est-ce que cette adrénaline, on la retrouve également dans le jeu que vous développez, Philippe Guigné, donc je rappelle, un jeu de simulation de voile?
Alors en fait, je crois que nous on fait un jeu de e-sport sans trop le savoir depuis quelques années. Je dis e-sport parce que finalement c'est un jeu compétitif et il y a un classement. Et à partir du moment où il y a un classement, là il se trouve que nous c'est un massivement multijoueur avec un univers persistant, c'est-à-dire c'est un jeu qui ne s'arrête pas, qui continue pendant des jours, des semaines, voire des mois, et où on a des centaines ou des milliers, ou voire des centaines de milliers de compétiteurs dans la même partie. Dans la rapidité, c'est pas forcément un critère, hein, dans la performance. Les jeux que vous avez cités sont très souvent quand même, il faut être extrêmement rapide, on parle effectivement d'action par seconde, etc. Mais ça peut être plus de la réflexion et du long terme finalement. Pour moi, le e-sport, c'est quand même très simple, parce que souvent on utilise des mots un peu complexes pour tout ça, mais si on veut simplifier, pour moi, un jeu qui est un support de e-sport, c'est simplement... C'est comme un terrain de foot. Un terrain de foot, c'est ça qui permet de faire que des gens se rencontrent sur une compétition. Un jeu va être utilisé comme un terrain de foot ou comme un terrain de pétanque. C'est à peu près la même chose à mes yeux. Donc le sport en question ou de la discipline en question pourra être très différente. De la même manière qu'on peut faire du 100 mètres, on peut faire du football, on peut aussi jouer aux échecs, et tout ça, ça peut être compétitif, et finalement, c'est très différent.
Alors, puisque vous faites le parallèle avec des sports traditionnels, je vous propose justement d'essayer de voir en quoi il y a des points de comparaison, puis ensuite, on verra en quoi les différences avec le sport traditionnel, appelons-le comme ça, obligent à réfléchir à une forme de régulation. Mais la première, peut-être, des comparaisons qui peut sembler pertinente, Jérémy Amzalag, c'est celle de l'effort physique. Quand on fait du sport, en général, c'est qu'on fait un effort physique. Est-ce que quand on est un compétiteur de jeux vidéo, il vaut mieux être en forme physiquement et entraîner?
Ça dépend évidemment des jeux vidéo. Il y a des jeux vidéo qui demandent une forme totale, étant donné qu'il y a des jeux qui demandent une grande dextérité et une grande rapidité. Notamment, on peut penser à StarCraft 2. De manière un petit peu moindre, il y a aussi League of Legends, qui est un des jeux qui est le plus pratiqué par les joueurs. Mais il y a des jeux également, personnellement le jeu auquel je joue qui s'appelle Hearthstone, qui est donc un jeu de cartes. On doute bien qu'un jeu de cartes, ça demande pas forcément d'effort physique, mais pourtant il y a quand même un effort mental à faire qui fatigue énormément quand on est en tournoi, en quart de finale ou en demi-finale d'un tournoi, et qu'on a plusieurs de dizaines de milliers de personnes qui nous suivent. L'adrénaline monte très très vite, ça demande énormément de concentration.
Alois Kirchner?
Non, et puis il y a aussi des jeux qui demandent un effort physique énorme. Je pense par exemple à des jeux comme Just Dance, qui sont des jeux où vous dansez et vous devez suivre une chorégraphie à l'écran, sur lesquels des compétitions sont organisées, et on se rend compte qu'on dépense autant de calories qu'en faisant un marathon. Enfin, c'est assez impressionnant.
Alors, je suis content parce que vous venez de citer le nom d'un jeu que je connais. Il se trouve que ma fille l'a à la maison. Donc Just Dance, évidemment, il y a de la musique, on voit des personnages, enfin des avatars qui dansent, et il faut essayer de reproduire les mêmes gestes. Est-ce que ça, pour vous, Juliette Rutowski, par exemple, ça fait partie du e-sport? Ou bien est-ce qu'on n'a pas peut-être aussi aujourd'hui tendance à y mettre un petit peu tout et n'importe quoi?
C'est un sujet que j'ai couvert cette année à la Paris Games Week parce que la vice-championne du monde de Just Dance est française. Elle a été championne de France cette année et l'année précédente, elle est vice-championne du monde cette année. Elle était troisième l'année dernière. Il y a une compétition qui est organisée tous les ans par Ubisoft à la Paris Games Week. Et j'avais un peu l'impression que c'était un jeu de salon, que c'était un jeu pour gamins, un jeu familial et que ça n'avait pas vraiment d'impact et qu'on ne pouvait pas le classer dans l'e-sport. Mais en discutant avec les compétiteurs, avec les éditeurs, avec les gens qui participent à ça, même si la compétition n'est pas encore très répandue, elle est soutenue par beaucoup de spectateurs, de fans, et quand on voit l'entraînement qui est fait par ces compétiteurs qui sont vraiment très très bons, ils sont tous dans une forme physique excellente parce qu'ils ont besoin que ils doivent danser pendant 4 minutes d'affilée, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 16 danses de suite, donc ça demande vraiment une forme physique incroyable. Donc moi personnellement, si ce ne serait qu'au point de vue physique, il aurait son point de vue sur l'e-sport autant qu'un autre.
Donc un effort physique à produire en fonction des différents jeux. Il y a aussi tout un visuel qui accompagne l'e-sport et qui rappelle justement le sport traditionnel. Il se trouve justement, Jérémy Amzalek, que là vous êtes venu avec votre maillot de l'équipe Millennium, dont on pourrait penser que ça pourrait aussi bien être un maillot de football par exemple.
Effectivement, on peut le voir, on est sponsorisé notamment par Orange, qui pourrait très très bien sponsoriser par exemple l'OM ou le PSG. Ces sponsors, effectivement, rappellent tout à fait le sport traditionnel, car c'est eux qui nous permettent d'aller en compétition, c'est eux qui nous permettent aussi parfois d'organiser des compétitions, et donc ils sont totalement indispensables.
On sait à quel point les sponsors sont importants dans la voile, Philippe Guigné. Est-ce que dans le jeu virtuel Regatta, il y a aussi besoin de sponsors dans les compétitions qui sont organisées autour de ce jeu ?
Ben, il n'y en a pas besoin, mais il y en a. Il n'y en a pas besoin dans le sens où on peut très bien jouer à nos jeux sans être financé. Déjà parce que pour y participer, c'est gratuit ou c'est modique si on veut acheter des options. Ensuite, est-ce que oui, on a envie de devenir pro, et auquel cas, ou presque pro, et auquel cas on veut finalement faire que ça devienne son travail. Donc là, on doit s'entraîner, on doit travailler. Pareil que dans le sport réel, hein. Pour ma part, je suis un ancien sportif professionnel. Quand je faisais de la voile en tant que pro, j'allais m'entraîner le jour, la nuit, quand il faisait beau, pas beau, c'était long, c'était fatigant. Je suis redevenu amateur parce que finalement, je trouvais que c'était un travail qui me convenait pas complètement.
Mais est-ce qu'à travers le jeu vidéo, vous avez l'impression de refaire à nouveau du sport, mais d'une manière différente ?
Ah, mais pour moi, évidemment, mais j'ai envie de dire qu'il peut choisir de ça. Je pense que personne n'a à choisir de qu'est-ce qu'un support, e-sport ou pas. C'est le public qui va choisir. Est-ce que le jeu est compétitif ou pas ? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent s'inscrire aux compétitions ? Encore une fois, la compétition de pétanque qui peut avoir lieu au pied de chez soi quand on habite dans le sud, c'est pas tout un truc très compliqué ni rien, mais à côté de ça, il y a quand même des gens qui finalement vont prendre une petite cotise pour participer à la compétition. Puis il y aura un panier gardien à la fin et voilà, mais non, je crois qu'il n'y a vraiment pas de règles à appliquer. C'est le public qui va décider finalement si le support il est capable d'encaisser de la compétition. Par contre, le support, il doit être juste, c'est vrai. On doit fournir un support de compétition qui doit fonctionner correctement. Déjà commencer par fonctionner, ce qui est déjà pas si simple, surtout quand on a beaucoup de gens qui sont en compétition, que c'est rapide, etc. Et puis voilà, il doit pouvoir délivrer un score qui est pas aléatoire. Et c'est d'ailleurs toute la différence entre effectivement du casino à l'extrême ou même du poker où il y a une part d'aléatoire qui est très importante, enfin qui est importante, même s'il y a de la compétence, ou l'extrême inverse sur certains jeux vidéo où par exemple les échecs où là il y a zéro hasard, c'est la performance de l'utilisateur à 100% qui donne le résultat.
Alois Kirchner, ce qui fait qu'un jeu devient un jeu vidéo de compétition, c'est comme le dit Philippe, il y a avant tout le public, il y a quand même aussi des sociétés, des éditeurs de jeux vidéo qui j'imagine aussi impulsent ça fortement.
Non, je crois que ce qui fait que c'est compétitif, c'est qu'il y ait des compétitions. Et ce qui fait qu'il y ait des compétitions, c'est pas d'abord les éditeurs, c'est le fait qu'il y a tout un écosystème amateur. Et faut pas oublier qu'avant qu'il y ait des sponsors, avant qu'il y ait du business sur cette partie-là, il faut qu'il y ait des joueurs amateurs très nombreux et qu'il y ait des fans. Et les éditeurs sont pas tout puissants dans cette affaire-là. Ils ont besoin d'avoir une base de fans qui apprécient le spectacle, la performance des joueurs. Et donc... ils sont obligés quand même de respecter tout ça. Et ce que dit Philippe Guigné sur le côté équilibré des règles, etc., c'est fondamental. Et ils ne peuvent pas faire n'importe quoi.
Juliette Rutowski ?
On avait parlé avec plusieurs acteurs, des éditeurs et tout ça, et même des joueurs professionnels. Quelles sont les qualités d'un jeu pour devenir un e-sport? Une des premières qualités, c'est que ça puisse être montré. Il faut qu'on puisse le restreamer, le diffuser aux gens en ligne et que ce soit intéressant à regarder. C'est intéressant de regarder un match d'Hearthstone ou c'est intéressant de regarder un match de LoL quand on connaît le jeu. Et il faut aussi que les joueurs considèrent que le jeu soit juste. Parce que si on considère que lorsqu'on perd une partie, on n'avait pas mérité de perdre et que le jeu n'est pas juste, aucun joueur ne va se consacrer à la compétition.
Jérémy Zalag.
Ce qui est intéressant dans ce que disait Monsieur Kirchner, c'est que vraiment tout part du bas. C'est-à-dire qu'à la base, c'est les joueurs qui jouent chez eux, dans leur salon, dans leur chambre, qui vont avoir envie de faire de la compétition. On va d'abord avoir de la compétition en online, c'est-à-dire ils vont jouer contre d'autres adversaires qui se trouvent soit à l'autre bout de la France, soit peut-être, pourquoi pas, à l'autre bout du monde, aux États-Unis, en Chine. Et au final, c'est ces joueurs-là qui vont se déplacer dans les événements, comme par exemple en France, on peut penser tout de suite à la Paris Games Week. Et c'est grâce à ces joueurs-là qu'on va avoir des compétitions aussi grosses, car comme on le disait tout à l'heure, il y a très très peu de joueurs en France qui vivent de ça professionnellement, et l'e-sport part vraiment du bas, ça part vraiment des joueurs passionnés qui jouent régulièrement chez eux.
Et ça, c'est grâce notamment d'ailleurs à des joueurs comme vous, Jérémy Hamzalag, parce que j'ai vu que vous étiez particulièrement bien classé dans le e-sport que vous pratiquez. Même alors, si voilà, il y a eu un reportage il y a pas longtemps qui disait que vous étiez, je sais plus, quatrième mondial. Finalement, vous avez dit non, je suis pas si bien classé que ça.
Restons modestes.
Oui, mais ça, c'était par rapport au physique. Vous vouliez pas qu'on sache finalement que vous êtes aussi bien classé.
J'étais pas au Panama, heureusement.
Pour continuer avec la comparaison avec le sport professionnel. Est-ce que vous, par exemple, vous pouvez faire l'objet de mercato, c'est-à-dire de sponsors qui viennent vous chercher pour vous dire, bah voilà, ce serait bien que vous quittiez l'équipe Millennium pour rejoindre notre équipe. Est-ce que ça existe aussi dans l'e-sport?
Alors bien sûr, c'est tout à fait possible. On peut tout à fait se faire débaucher, pour utiliser un terme du travail, par d'autres structures, par d'autres équipes, par d'autres sponsors. Après, les sponsors, c'est pas vraiment eux qui viennent débaucher, c'est directement les équipes qui viennent chercher les joueurs. Et après, il y a des discussions qui peuvent s'engager autour des contrats des joueurs entre les deux équipes. On demande évidemment l'avis des joueurs, c'est très important dans l'e-sport. C'est peut-être encore différent du sport traditionnel, là où ça.
Mais c'est quoi les arguments, par exemple, qu'on vous propose? C'est de dire, voilà, venez chez nous, vous serez mieux payé.
Pourquoi pas, vous serez mieux payé, vous aurez de meilleures conditions, vous pourrez aller à plusieurs événements. Il y a aussi l'attrait de l'étranger qui peut être très intéressant pour certains joueurs. Peut-être qu'il y en a qui veulent partir aux États-Unis, en Asie, et c'est fondamental.
Alors Aloïs Kirchner, d'ailleurs, ça pose justement, alors, une des questions que vous posez dans ce rapport parlementaire auquel vous avez contribué, qui est celui, qui est celle, puisque c'est une question, du statut du joueur professionnel. Aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qui est encadré? Est-ce qu'il y a des joueurs qui signent de véritables contrats de travail, ou bien est-ce que ça reste quelque chose d'assez, on va dire, désorganisé?
La question qu'on se pose en fait dans le rapport, c'est celle de l'attractivité de notre pays pour attirer les meilleurs joueurs, les plus belles compétitions, et faire en sorte que ce phénomène qui débute mais qui croît très très vite, on l'a dit, puisse trouver sa place en France et puisse s'y développer dans les meilleures conditions. Et donc effectivement, si on veut qu'il y ait des marchés de transfert, que les joueurs soient bien protégés, qu'ils soient contents de jouer ici, il faut leur offrir un statut, il faut reconnaître cette pratique et il faut s'assurer que tout se passe dans des conditions qui sont acceptables pour tous les acteurs. Et donc notamment, il y a dans le rapport l'idée qu'on puisse reconnaître le statut du e-sportif professionnel en lui proposant par exemple un contrat de travail qui soit adapté, parce que les équipes ont des contraintes spécifiques, il y a beaucoup d'incertitudes, c'est comme dans le sport finalement, chaque saison on remet tout en jeu. Et donc il faut trouver un contrat de travail qui puisse à la fois protéger le joueur, parce que ça lui permettra de cotiser pour sa retraite, d'avoir accès à la sécu et tout ça. C'est quand même important pour la suite de sa vie, la suite de sa carrière, et qui en même temps ne soit pas forcément le CDI tel qu'il existe pour tout le reste du monde. Et donc ce qu'on propose, c'est de transposer le contrat de travail du sportif professionnel, qui répond bien à ces questions-là, au cas du e-sport.
Juliette Rutowski, vous n'êtes pas joueuse professionnelle, je crois, aujourd'hui. Est-ce que c'est enfin peut-être que si, alors du coup.
Alors non, je représente plutôt la branche amateur des joueurs ici, c'est-à-dire qu'on est une association, donc on n'est pas professionnel.
Mais en tout cas, est-ce que c'est un statut qui pourrait vous intéresser? Est-ce que ces discussions-là aujourd'hui, elles vous intéressent?
La discussion m'intéresse parce que c'est tellement important actuellement, parce que c'est le moteur du monde dans lequel on vit et dans lequel on veut évoluer qui est en jeu. C'est aussi l'avenir des jeunes joueurs qui arrivent sur le devant de la scène parfois à 15-16 ans, qui sont hyper talentueux. On a un exemple d'ailleurs chez Millennium avec Ansama qui a 16-17 ans, et il a pas l'âge pour entrer dans certaines compétitions officielles, mais le gamin a un talent fou, et il faut faire attention aussi aux contrats qu'on donne à ces joueurs et les encadrer pour pas qu'ils se fassent enfermer dans une structure en signant un contrat qui serait malvenu et qu'ils soient bien encadrés. Donc voilà, travailler sur le statut du joueur professionnel, c'est important aussi pour donner des ouvertures à tout le monde, que ce soit des joueurs ou des joueuses qui, actuellement amateurs, aimeraient se professionnaliser et qui, pour l'instant, c'est un petit peu trop flou pour que vraiment on puisse oser aller là-dedans, quoi.
Et j'arrive bien à Zalag.
Alors, on parlait des contrats. Enfin, moi, pour ma part, je pense que je suis un des seuls joueurs actuellement en France à être en CDI. Mais ce CDI n'est pas uniquement pour mon statut de joueur, et ça, on peut le regretter. J'aimerais bien avoir un contrat uniquement pour mon statut de joueur. Là, le CDI intègre également le fait de faire des émissions sur des web TV. Alors, c'est une passion, évidemment, donc on est très content de faire ça, mais il n'y a pas encore de contrat uniquement pour les joueurs, et ça pourrait être très intéressant, notamment pour protéger les joueurs, mais aussi pour rassurer, pourquoi pas, les parents, les familles, parce que c'est aussi très important. Il y a beaucoup de joueurs très jeunes qui nous écoutent peut-être, qui veulent se lancer et qui n'ont pas toujours des parents derrière, qui sont très très motivés, parce que forcément ça implique parfois d'aménager un petit peu les études, d'arrêter un petit peu certaines activités à la place. Et c'est vrai que si tout ça était mieux encadré, ça permettrait sûrement de rassurer et d'un côté les joueurs et d'un côté les familles, et c'est là que tout part, à mon avis.
Philippe Guigné, je rappelle que vous êtes, au-delà d'un créateur de jeux vidéo, membre du conseil d'administration du syndicat national du jeu vidéo. Quelle est la position du syndicat, justement, sur cette idée de créer un statut adapté aux joueurs professionnels de jeux vidéo?
Ah ben je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Hein. On a besoin de mieux comprendre et de donner plus de visibilité tant aux éditeurs que aux joueurs. Effectivement, quand on s'inscrit à une compétition, faut qu'on arrive à savoir si on peut demander un prix d'accès à la compétition. Est-ce que tout ça est bien légal, il n'y a pas de problème? Et puis ensuite, est-ce que les joueurs vainqueurs vont pouvoir encaisser un prize money, oui ou non? Et comment? Voilà, tout ça a besoin effectivement d'être cadré. Est-ce qu'aujourd'hui on est dans un flou qui est un peu gênant, et du coup on sait pas trop, et le joueur n'est pas très en sécurité, mais l'organisateur de la compétition ne l'est pas non plus, et l'éditeur du jeu ne l'est pas non plus.
Est-ce que ce sont ces incertitudes à Loïs Kirchner qui font qu'aujourd'hui les compétitions de jeux vidéo sont considérées comme des loteries?
Alors, je crois que la question que vous posez, celle qui était à l'origine du lancement de la mission parlementaire, on s'est rendu compte qu'il y a une réglementation qui n'avait pas été prévue pour le cas du jeu vidéo, qui, au final, s'appliquait au jeu vidéo et qui faisait que c'était interdit parce que c'était assimilé à un jeu d'argent. Et donc, une des propositions du rapport, c'est...
Ce qu'on peut comprendre, puisque s'il y a des lots à gagner à l'issue de certains tournois, ça peut ressembler effectivement à certaines loteries.
C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens payent un droit d'entrée et puis à la sortie peuvent récupérer un prix, dans certaines conditions, notamment si les mises sont très importantes et si c'est des mises et pas simplement une participation aux frais d'organisation, parce qu'on parle là de compétitions physiques qui réunissent des centaines, voire des milliers de joueurs dans un même lieu, donc il faut louer la salle, il faut amener le courant, il faut amener Internet, il faut amener des PC, ça coûte très cher à organiser, et donc c'est normal que les joueurs puissent payer des frais de participation pour tout ça. En revanche, ce qui poserait problème, c'est s'ils misaient et que ces mises étaient ensuite redistribuées aux vainqueurs.
Ça n'existe pas.
Et ça, ce qu'on constate quand on a été sur le terrain avec la mission, c'est que c'est pas du tout la pratique générale. Ce qui se passe, c'est vraiment le cas que je vous décrivais, des joueurs qui se regroupent par centaines, voire par milliers, qui payent 30, 40 euros pour deux jours de compétition. On est vraiment sur les montants que vous constatez pour un tournoi de foot, un tournoi de golf, que sais-je.
Voilà, donc c'est les frais de participation.
C'est vraiment les frais de participation. Et ce qui inquiétait certaines personnes, c'est que, en fait, en jeu vidéo, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez très bien faire un jeu de poker simulé. Et dans ce cas-là, effectivement, en France, on ne peut pas faire du poker n'importe où. Le poker, c'est dans les casinos ou dans les cercles de jeux autorisés. Et la question, c'était bien qu'on ne puisse pas reproduire ça, mais qu'on puisse pratiquer tous ces jeux qui n'ont rien à voir avec des jeux d'argent, et que ce qui se passait aujourd'hui dans une espèce de zone grise puisse s'afficher au grand jour, parce qu'il n'y a absolument rien à cacher de ce côté-là.
Mais ça veut dire qu'il y a aujourd'hui une forme de tolérance administrative par rapport à ces compétitions?
Oui, mais c'est ce que je vous disais, en fait, quand le législateur a prévu la réglementation, il n'a pas pensé à ce cas-là, parce qu'il ne savait pas, je pense, à l'époque, il n'y a pas pensé. Et donc, au final, tout le monde se rend bien compte que le sujet n'est pas exactement le même, et ce qu'on propose dans le rapport, c'est finalement de prendre acte du fait que ce n'est pas la même chose, et de faire en sorte que désormais, il n'y ait plus cette question qui se pose.
Il y a peut-être un autre élément qui plaide, Juliette Rutowski, en faveur de l'assimilation des compétitions de jeux vidéo, en tout cas de certains, à des loteries. C'est la notion de hasard. La loterie, on gagne parce qu'il y a du hasard. Est-ce qu'il y a du hasard dans certaines compétitions de jeux vidéo ?
Alors là, je pense que Torque pourrait aussi très bien vous en parler parce que lui, il joue
Torque,
un
je rappelle,
jeu de cartes.
C'est Jérémy Amzalag.
Voilà, il joue en fait, il joue un jeu qui s'appelle Hearthstone. Donc vous construisez vous-même votre paquet de cartes. Donc vous avez le côté hasard de quelle carte je vais piocher, quelle carte je vais avoir et tout. Mais vu que vous construisez vous-même votre paquet de cartes et qu'il y a des règles qui régissent quel paquet de cartes vous allez jouer contre quelle personne, au final le hasard il est maîtrisé et ça reste un jeu assez anecdotique parmi la majorité des jeux où le hasard est et pratiquement inexistant, parce que les joueurs ne veulent pas jouer leur victoire sur du hasard. Les joueurs veulent que leur victoire dépende de leur propre talent ou de leur propre capacité à jouer en équipe. Bon, bah, dans Hearthstone, c'est maîtrisé. Je pense que voilà, Jérémy en parlera mieux.
Peut-être Jérémy Amzalag, qu'il faudrait justement se dire, alors il y a un certain nombre de jeux vidéo en compétition qui pourraient mériter ce statut de e-sport, mais que le jeu auquel vous jouez, Hearthstone, comme il y a une part de hasard, et ben il faut peut-être le laisser dans les loteries.
Alors c'est une question extrêmement intéressante parce que même nous, on en rigole régulièrement. Donc non, évidemment, Hearthstone n'a absolument rien à voir avec un jeu comme le poker ou un jeu comme le loto. Évidemment, il y a certes une dimension de hasard, car quand vous jouez à un jeu de cartes, il y a toujours une dimension, quelle carte je vais piocher. On ne sait pas quelle on va piocher. Après, pour en revenir à ce jeu-là, sans entrer dans les détails, c'est un jeu où le hasard est extrêmement limité. C'est quasiment toujours les mêmes joueurs qu'on voit dans les tournois. C'est les mêmes joueurs qui font des performances. Parce qu'il y a surtout beaucoup de stratégies. Quelle carte je vais choisir ? C'est très différent du poker où, évidemment, là, le hasard est beaucoup plus grand.
Mais Jérémy Amzalag ne le dira pas parce qu'il est très modeste. Mais si vous ou moi tentons notre chance à ce jeu, qui est facile d'abord, on n'a aucune chance. Parce qu'il est beaucoup plus fort que nous. Et ça règle vraiment la question. Enfin, c'est ça ce qui fait la différence.
Et ce qui est important aussi, c'est que le hasard va peut-être vous permettre de gagner une partie sur une très bonne sortie de carte, sur une très bonne pioche. Vous pouvez avoir beaucoup plus de chance que votre adversaire. Mais dans une compétition, vous faites 7, 10, 15, une vingtaine de matchs, je crois. Mais donc du coup, sur 20 matchs, la chance, au final, n'est pas si importante.
Même là, pour le
c'est comme jouer à la belote. Si
même
vous
là, pour
bon
le coup,
belote,
je pense que si on s'affrontait, je gagnerais quasiment toutes les parts. 100 parties sur 100, je pense, concrètement. Ouais. Le hasard est vraiment, encore une fois, très limité.
Il n'est pas si modeste que ça.
Je me suis repris du coup. Je me suis repris effectivement. Mais non, le hasard dans ce jeu peut exister, mais c'est vraiment extrêmement limité et contrôlé par la stratégie, ce qui fait que ce sont quasiment toujours les mêmes joueurs et les meilleurs joueurs qui vont s'imposer.
Alors je vous rappelle la question telle qu'on l'a formulée ce soir. Le jeu vidéo est-il le nouvel avatar du sport business ? Et je voudrais m'arrêter sur cette question de sport business. J'évoquais, je crois, en début d'émission, certains lots. Alors j'ai vu que le World Championship League of Legends, donc c'est un jeu qui est organisé par Riot Games. Mmh. Riot Games, si j'ai bien compris, c'est un éditeur de jeux.
Exactement.
Et le vainqueur repart avec $1 million et il y a une autre compétition qui s'appelle le International Dota où là l'équipe victorieuse, alors là il y a plusieurs personnes, c'est $6 millions. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Philippe Guignet, que de la même manière qu'il y a du sport business dans certaines disciplines, il y a du e-sport business?
Je ne sais pas, est-ce qu'on considère que Djokovic court après la balle jaune forcément pour gagner de l'argent?
Peut-être pas seulement, mais je pense que ça peut aussi motiver, non?
Oui, je pense qu'il a couru après la balle pendant des années, pas pour l'argent. Au début, c'était parce qu'il aimait ce sport et quand il avait 5 ans, 10 ans, etc. Et puis, au bout d'un moment, ça a pu devenir sa profession. C'est exactement la même chose. Hein. Le début du e-sport, pour moi, ça reste jouer à Mario Kart dans son canapé à 4 copains. Hein. Enfin, vous voyez, c'est très local au départ. Donc après, finalement.
Oui, c'est de l'arrivée dont je vous parle. Moi, c'est pas du départ.
Oui, ben voilà, mais effectivement, c'est vrai. Et après, effectivement, s'il s'avère que le compétiteur en question a développé vraiment des compétences extrêmement fortes, etc. Voilà, et qu'il est capable de gagner, et même s'il y a un petit peu de hasard dans le jeu, il s'avère qu'il maîtrise et qu'il en est capable, il est meilleur. Donc s'il est meilleur, s'il passe à la télé, et bien du coup il y a des sponsors qui vont être intéressés à mettre les marques sur ses vêtements, etc. Et donc du coup il devient bankable. Et c'est aussi simple que ça.
Est-ce qu'on peut dire d'ailleurs qu'aujourd'hui les compétitions de jeux vidéo sont de mieux en mieux dotées, Jérémy Amzalag?
De plus en plus, on arrive à de très 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 grosses sommes. Vous parliez donc notamment de Dota avec 6 millions, c'est ça, de dollars à gagner. Les compétitions, on a toujours une ou deux grosses compétitions tous les ans où il y a énormément d'argent à gagner, où c'est là où l'éditeur en général met le plus d'argent pour faire une grosse vitrine en quelque sorte. Mais il y a à côté aussi beaucoup de compétitions beaucoup plus modestes, où on a peut-être parfois que 500, voire que 1000 euros à gagner. Comparé aux autres, c'est quand même beaucoup moins important. Mais c'est ces compétitions-là qui font vraiment vivre les joueurs au final. Parce que ces compétitions où il y a 2 millions, 3 millions, 4 millions à gagner, bah, c'est une seule équipe qui va remporter ça. Et les petites équipes ou les plus petites équipes, elles vont pouvoir essayer de vivre grâce aux plus petites compétitions.
Alois Kirchner.
Oui, on parlait de Djokovic. Dans le tennis, il y a 150 personnes dans le monde, dans le championnat masculin, qui gagnent plus de 40 000 dollars par an. Avec les prix de compétition, hein, pas les sponsors, juste ce qu'ils gagnent en tournoi. Si vous faites le même calcul sur le e-sport, aujourd'hui, il y a 200 joueurs dans le monde qui, en 2015, ont gagné plus de 40 000 dollars. Donc on est vraiment sur des modèles qui sont comparables. Et c'est tellement vrai que le jeu qui est le plus développé aujourd'hui en matière de e-sport, c'est League of Legends. Et l'éditeur Riot Games, que vous mentionniez, se calque complètement sur la NBA. Son jeu, c'est du 5 contre 5. Il a fait des ligues professionnelles sur chaque continent. Il sélectionne les meilleures équipes. Il s'assure que chaque équipe ait les mêmes moyens pour fonctionner, un peu à la manière des licences en NBA, c'est strictement comparable.
Alors, il y a une comparaison qui, en revanche, n'est peut-être pas tenable. C'est celle qui nous amène du côté de l'organisation et de la réglementation, on va dire, des compétitions. Au tennis, par exemple, quand on fait un match de tennis, il faut gagner des jeux, 15, 30, 40, et puis on gagne le jeu. Ensuite, il y a des sets. Alors, ça peut être un match en 2-7 ou en 3-7 gagnant, mais on va dire que ce sont des règles qui sont assez fixes et qui sont fixées par la fédération du tennis. Juliette Rutowski, s'agissant des jeux vidéo, est-ce que ça ne pose pas un problème que ce soit les éditeurs de jeux vidéo, c'est-à-dire qui ont des intérêts commerciaux, qui édictent les règles et qui sont peut-être en plus tentés de les modifier régulièrement parce que justement commercialement il y a intérêt à faire vivre le jeu, c'est-à-dire à le faire évoluer?
C'est une très bonne question et je pense que c'est un des points les plus compliqués en fait de ce dossier. On en a tous conscience quand on est dans le jeu, c'est que les éditeurs, ils sont partie intégrante en fait de ce monde de l'e-sport. Ils ont leur mot à dire, le jeu évolue. Par exemple, je vais parler de League of Legends parce que c'est celui que je connais le mieux. Il y a un patch pratiquement tous les mois qui...
Un patch, ça veut dire quoi? C'est une mise à jour?
Un patch, c'est une sorte de mise à jour qui va dire, oh, alors, on va augmenter un peu la puissance de tel personnage, diminuer celle d'un autre, on va modifier quelques règles. Des règles qui peuvent être minimes, mais les joueurs vont être capables d'exploiter ces règles pour changer un petit peu le jeu à chaque fois. C'est-à-dire que le jeu tel qu'il est maintenant et tel qu'il était quand il est sorti en 2009, ce sont deux jeux qu'on pourrait dire totalement différents. Mais c'est vrai que le fait que les éditeurs aient leur mot à dire là-dedans peut paraître problématique, mais les éditeurs écoutent les joueurs. Et il y a un dialogue entre les joueurs et les éditeurs qui est vraiment important et qui façonne le jeu. Les joueurs ne peuvent rien faire sans les joueurs, les éditeurs ne peuvent rien faire sans les joueurs, ils le savent.
Jérémy Mzalag.
Je vais peut-être vous surprendre, mais voyez, pour moi, le fait que les règles puissent changer, je pense que c'est une force de l'e-sport finalement, parce que c'est un jeu qui évolue. Et c'est ce que veulent les joueurs finalement, c'est les joueurs. Pour être moi-même donc joueur et pour parler régulièrement, pour rencontrer régulièrement d'autres joueurs, les joueurs attendent que le jeu change. Là où par exemple un sport comme le basket ou le football, les règles vont rester fixes, nous, à côté sur les jeux vidéo, les règles vont évoluer au fur et à mesure. Alors pas de manière drastique, mais on va avoir quelques petites modifications. Il y a des mises à jour qui se font de temps en temps et ça permet de ne pas se lasser des jeux. Ça permet aux éditeurs de créer du nouveau contenu et les joueurs attendent vraiment ça. C'est une demande qui vient des joueurs finalement.
Oui, mais est-ce qu'il ne serait pas plus sain que ces demandes de modification des règles, elles soient enregistrées et disons édictées par une autorité qui serait une autorité neutre et qui ne serait pas l'éditeur même du jeu vidéo? Alois Kirchner.
Déjà pour dire que c'est pas tout blanc ou tout noir, il y a pas des fédérations internationales, enfin il y a pas d'un côté les fédérations qui édictent une bonne fois pour toutes des règles qui n'évoluent plus jamais et d'autre part dans le jeu vidéo quelque chose de complètement différent. Quand vous regardez le sport business que vous mentionniez, les règles du basket en NBA sont pas exactement les mêmes que les règles du basket de la Fédération internationale de basket. En Formule 1, qui est un sport reconnu, il y a quand même des tas de changements de règles toutes les saisons où vous explique que vous êtes obligé de prendre des pneus Michelin, que il faut les changer qu'une seule fois, que vous êtes qu'à trois blocs moteurs pendant la course.
C'est vrai que s'agissant de la Formule 1, c'est très lié à des intérêts commerciaux. Voilà.
Oui, non, mais vous avez raison. Et en même temps, c'est ce qui fait que c'est un spectacle apprécié et qui fait que ça marche. Et ça n'en fait. Il y a quand même une performance qui est remarquable. Alors, il faudrait peut-être demander à Philippe Guigné, qui est un peu l'homme de la matière, mais. Je crois que le point, c'est quand même que les joueurs ont leur mot à dire et qu'en fait, si les éditeurs font n'importe quoi, ils perdent leurs fans. Donc, il y a un équilibre qui se crée et qui va se créer de plus en plus au fur et à mesure que les fans prennent le pouvoir.
Il y a un rapport de force, c'est ça.
Ouais. Alors, qu'en pense Philippe Guigné, justement?
Ah ben je pense exactement ce qu'il vient de dire. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. C'est l'audience du jeu et le plaisir du jeu et le nombre de pratiquants qui va faire le succès de ce support comme support de e-sport. C'est aussi simple que ça. Je voulais aussi rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que les règles des sports réels, enfin du monde réel, elles évoluent. Hein. Alors elles évoluent effectivement.
Ça dépend des sports, hein, Philippe Guigné. Parlons de football, ça évolue pas très vite, par exemple.
Parlons de la natation, sport qui est reconnu par tous.
Non, attendez, je peux pas vous laisser dire que ça n'évolue pas. C'est pas vrai, ça évolue.
Les combinaisons, on peut les mettre.
Les règles de tous les sports évoluent. Il faut s'adapter en permanence. Et si vous pouvez regarder même d'une compétition à l'autre, on va pas avoir exactement les mêmes règles. Si on prend par exemple le sport qui est le foot, vous avez dans telle compète des cartons jaunes qui vont s'empiler, etc., etc. Pas dans d'autres ou différemment. Donc même d'une compétition à l'autre, les règles peuvent être un petit peu différentes. Mais de toute façon, ces sports évoluent, les règles du sport évoluent. Faut pas oublier qu'un sport, prenons le football, n'importe lequel finalement, c'est quand même quelque chose qui a été créé au départ par quelqu'un qui a commencé à organiser, voilà, il y a un ballon, on tape, on va mettre des buts, ça va être comme ci, comme ça, puis ça a évolué sur des dizaines d'années, des centaines d'années pour certains sports. Et finalement, l'éditeur du jeu vidéo, c'est pareil. Faut pas oublier que l'éditeur du jeu vidéo, c'est le créateur du sport en question. C'est le créateur. Il fait ce qu'il veut. Il fait le jeu qu'il veut. Après, son sport, enfin, son
jeu, pas pousser non plus.
Utilisé ou pas. Faut pas pousser,
nous dit Jérémy Amzalag.
Mais j'ai envie de dire si, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Et s'il pousse et dans le mauvais sens, il aura juste plus de joueurs. Et voilà. Et ce sera la règle du marché qui fera que ça marchera ou pas. Mais dans tous les sports, c'est pareil aussi. Si ce sport, vous êtes en train de changer, on change les règles et ça devient inintéressant, les gens changent de sport. C'est pareil.
Un tout petit mot, Juliette Rutrovski.
Oui, moi, je parle aussi, je suis aussi là au nom de Pinkward, on parle de la mixité dans les jeux vidéo. Et le système de la mixité dans les sports est aussi un sujet d'actualité. On parle, il y a un circuit féminin qui commence à se mettre en place. Et la question est, si on est officialisé en tant que sport, est-ce qu'on aura une catégorie féminine et une catégorie masculine ou est-ce que les deux catégories seront mixtes?
Qu'est-ce que vous souhaitez, vous, justement, que ce soit mixte?
Mon association souhaiterait que ce soit mixte. Moi, je pense personnellement que un sport féminin peut être une étape transition. La transition pour la mixité, pour l'instant, l'e-sport féminin est indispensable. Mais à long terme, j'espère que la mixité prendra le dessus.
C'est vendredi dans Du Grain à Moudre et comme chaque vendredi, nous retrouvons les pages débat de l'Obs avec Eric et Shiman ce soir. Bonsoir Eric.
Bonsoir Hervé.
Et ce soir pour un entretien avec la philosophe belge Chantal Mouffe.
Oui, alors nous accueillons dans les pages Chantal Mouffe, qui est une philosophe qui a beaucoup écrit avec son mari, le philosophe Ernesto Laclau, qui est mort il y a 2 ans. Et les travaux d'Ernesto Laclau et de Chantal Mouffe ont beaucoup inspiré notamment les dirigeants de Podemos, le parti espagnol né des indignés. Donc évidemment, il était intéressant de lui demander son avis sur la nuit debout, avec cette question qui est maintenant ouverte et assez connue, de savoir comment et en quoi un mouvement déplace, un mouvement d'occupation, un mouvement immobile, un mouvement où on s'assoit pour discuter tous ensemble, dans une discussion, un rapport horizontal, dans des assemblées générales où chacun aura le même temps de parole, et ben comment ça peut déboucher sur quelque chose politiquement. Et Chantal Mouffe, qui donc a réfléchi à ça à partir de l'expérience espagnole, est assez sévère de façon étonnante avec Nuit Debout. Enfin, elle y est allée, elle dit que c'est sympathique, mais elle fait un reproche c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de romantique, de trop romantique dans La Nuit Debout. La croyance que le consensus vaut d'y passer des heures et des heures et des heures de discussion, alors que pour elle, la démocratie, c'est d'abord la conflictualité et d'assumer les désaccords. Une autre illusion, dit-elle, c'est de penser qu'il suffit d'être assis sur une place pour inventer une nouvelle forme politique. Une troisième est de penser qu'on peut se passer de leader. Et une quatrième, qui va avec la troisième, c'est qu'on n'a pas besoin de s'engager dans les institutions politiques et étatiques. Et pour Chantal Mouffe, bien au contraire, il faut un leader. Il n'y a pas de démocratie sans représentation, dit-elle. C'est autour du leader que se cristallise le « nous ». Le NOUS qui fait le peuple. Donc c'est une participation, une contribution à la discussion autour de l'avenir de La Nuit Debout et une contribution qui n'est pas exemple de critique par rapport à La Nuit Debout.
Voilà, et c'est donc à retrouver dans le dernier numéro de l'Obs. Merci Eric Eschiman, et je précise d'ailleurs que Chantal Mouffe, vous pouvez également la réécouter dans Du Grain à Moudre. C'était une émission que nous avions faite le 12 avril dernier avec le constitutionnaliste Dominique Rousseau. Un grand merci à nos quatre invités pour nous avoir parlé de e-sport. Merci à vous, Aloïs Kirchner, Philippe Guigné, Juliette Rutowski et Jérémy Amzalag. La prochaine compétition qu'il ne faut pas rater, c'est laquelle, Jérémy Amzalag?
14 au 16 mai, je vous invite tous à venir à la DreamHack Tour pour nous suivre et pour suivre tous les compétiteurs.
Et comme son nom l'indique, ça se passe à Tours.
Évidemment.
Merci beaucoup en tout cas. Vous pouvez commenter l'émission comme chaque jour sur franceculture.fr. Un grand merci à toute l'équipe du Grain, en particulier à Hugo Temujin Florent. Émission réalisée par Jean-Christophe Francis avec à la prise de son Jean-Frédéric. On se retrouve lundi pour la question suivante. Pédophilie, comment gérer la libération de la parole? Tout de suite, c'est Ping Pong. Bonsoir Mathilde. Bonsoir Martin.